Bon, je poursuis ce message sur le thème de la relation avec Jésus-Christ. Et donc le christianisme est avant tout une relation personnelle avec le Christ. Ce n'est pas une religion. C'est vraiment un rapport, comme l'a vu les fois précédentes, comme nous avons des rapports avec notre épouse, ou avec notre père, notre mère, ou avec nos frères et sœurs, si nous en avons. C'est une relation bidirectionnelle, on va dire. Et aujourd'hui, donc, l'intitulé de ce message se nomme « Dans l'intimité ». Alors d'abord, on commence par une définition de ce qu'est l'intimité. Donc au sens littéraire, c'est ce qui est intérieur et secret. C'est ce qui est du domaine de la vie privée. C'est une liaison, une relation étroite, familière, très proche, un partage, un attachement et de l'amitié. On dit bien vivre dans l'intimité avec quelqu'un. Un synonyme de l'intimité, c'est l'union également. Donc l'intimité réfère généralement à un sentiment d'association personnelle avec une personne, avec un proche. Il y a une connexion familière très importante, très forte et affective, très étroite, avec une personne ou d'autres personnes d'ailleurs, et qui sont souvent fois consécutives à des expériences communes. Voilà. C'est la vie tout simplement qui fait que parfois on est amené à connaître des gens et à partager des circonstances avec eux, au travers desquels se peuvent se nouer une amitié. Et souvent de fois, ça peut être soit des moments de joie, de tristesse, ou même après des expériences douloureuses. Par exemple, on peut regarder ce qui se passe entre des soldats à la guerre, malheureusement, qui sont amenés à vivre ensemble de façon très proche sur un terrain, à partager le froid, la pluie, la boue, et puis bien sûr l'angoisse de la mort qui peuvent les attendre. Et donc, de ce fait-là, ces circonstances sont propices parfois à l'émergence d'une relation très étroite avec certaines personnes, puisque rentrent en ligne de compte également les affinités des personnes, les caractères. Donc, les personnes sont amenées à vivre dans une intimité importante. Donc, l'intimité véritable demande des échanges, de la transparence, de la réciprocité et... indirectement, il y a une certaine vulnérabilité, puisque quand vous vivez dans l'intimité avec une personne, eh ben, vous vous montrez tel que vous êtes, on se montre tel qu'on est, donc ça oblige à vivre, entre guillemets, à découvert, donc être transparent, sans avoir peur d'être jugé, et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Le Seigneur, comme il est dit dans sa parole, connaît les intentions de nos cœurs, avant même que nous-mêmes nous en soyons conscients, il sait tout de nous. Et donc le christianisme et la vie chrétienne avec le Seigneur permet ce type de relation. Alors pour terminer sur la partie définition, le Robert ajoute que l'intimité offre un confort, un endroit où on se sent tout à fait chez soi et isolé du monde extérieur. Et en cela, justement, c'est le fait d'avoir une intimité avec le Seigneur nous met en dehors du monde. D'ailleurs, on le voit souvent dans la Bible, dans les évangiles. Souvent de fois, le Seigneur prêchait en dehors des villes et il amenait les gens, il faisait que les gens aillent dans les déserts pour être avec eux, à part, pour les couper de leur train-train quotidien, de leur référence habituelle, pour justement pouvoir être focalisé sur lui, sur son message, sur ce qu'il avait à leur dire. Et donc, il y avait un certain isolement temporaire de ce monde. Et c'est ce que Jésus nous recommande dans notre relation avec lui, avec le Père Céleste. Dans Matthieu 6,6, il dit bien ceci: « Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc ici, il n'est pas question de religiosité, il n'est pas question de se mettre en valeur par rapport aux autres avec sa relation avec le Seigneur. Non, c'est quelque chose d'intime, d'à part, de personnel avec lui. Et c'est dans ces moments de prière on peut faire état de toutes ses difficultés, ses angoisses, ses joies également, et lui demander de l'aide. Et c'est l'un parmi d'autres des grands bénéfices que nous avons par rapport aux gens qui ne sont pas encore convertis. C'est que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et nous ne sommes pas seuls pour affronter les difficultés que n'importe qui peut rencontrer. Nous avons un Père Céleste auquel nous pouvons accéder par son Fils Jésus-Christ et nous pouvons nous recommander à lui. Alors, il ne va pas venir forcément nous aider et nous résoudre nos problèmes d'un coup de baguette magique comme ça, par enchantement, mais il y a cette relation spirituelle qui fait qu'il nous remplit de sa paix et qui fait que on peut affronter les événements aussi difficiles qu'ils soient. Jésus-Christ a notamment dit ne soyez point soucis du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. Donc on voit bien que ça sert à rien de s'angoisser pour l'avenir, pour est-ce qu'on aura une retraite ou pas une retraite, est-ce que demain on aura de quoi manger ou pas. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et amoureux de nous pour justement ne pas nous laisser tomber, bien au contraire, il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Et également dans le cadre de cette relation très très privée, il dit par ailleurs dans Matthieu 6, 17, « Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. » Donc on voit bien que la vie chrétienne, c'est une vie de partage personnel avec le Seigneur, qui nous amène également forcément à vivre avec d'autres chrétiens qui eux-mêmes partagent une relation très personnelle avec le Seigneur. Et au travers de ces relations personnelles, ça crée un groupe qui est unifié par l'amour de Christ en chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle tout chrétien est amené à devoir, à un moment donné, être verti dans une église locale pour faire partie de l'église universelle. Donc, pour en arriver à cette intimité, il faut bien sûr qu'au préalable, il y ait eu une repentance et une conversion. Et c'est donc l'objet, bien sûr, de l'évangélisation. Il y a notamment, donc, vous les connaissez, à la fin des différents évangiles, de Matthieu, de Marc et de Luc, cette exhortation du Seigneur auprès de ses apôtres, mais également à nous tous, bien sûr, d'aller dans le monde et d'instruire les nations pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de leur enseigner tous les commandements que Jésus-Christ lui-même a enseigné aux apôtres et que nous avons nous également dans la Bible. Dans Luc, justement, il redit la même chose, mais un peu différemment, où il dit que nous devons aller prêcher en son nom la repentance et la rémission des péchés. Donc on voit bien qu'il n'y a pas non seulement une notion de salut, de sauver les gens de l'enfer, mais également donc de faire prendre conscience aux individus qu'ils sont à part de Dieu, ils sont même ennemis de Dieu, peut-être même sans le savoir, et qu'ils ont bien sûr un empire en enfer. Et le fait de croire ne va pas seulement leur permettre de se sauver, mais concomitant à la foi et donc au salut, la parole va créer en eux un sentiment de repentance, parce qu'ils vont se rendre compte par la parole qu'ils mènent une vie qui n'est pas agréable au Seigneur, et que cette vie-là, justement, et leur mentalité les séparent du Seigneur. Et donc c'est ce qui va pouvoir leur permettre après de débuter cette relation personnelle avec le Seigneur. Alors il y a un exemple de ça qui est, enfin, qui moi me touche particulièrement, c'est dans Actes 2, versets 37 et 38. Si vous vous souvenez, c'est donc les apôtres qui sont en train de prêcher dans des langues étrangères. Il y a la diaspora, les juifs qui reviennent donc à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Et ces juifs vivent à l'étranger, mais ils reviennent à Jérusalem. Ces juifs vivent en Italie ou dans les pays aux alentours. Et vivant dans ces pays-là, ils parlent forcément la langue locale. Et donc ces juifs sont étonnés de voir ces gens du peuple, donc pas ou peu instruits, qui ne sont jamais sortis de leur bourgade, parler et prêcher dans la langue des pays d'où viennent ces juifs, quoi. Et donc ils sont complètement atterrés d'entendre ce qu'ils disent. Et donc Pierre prend la parole pour justement leur faire comprendre que ce fameux Jésus-Christ qui a été crucifié, c'est celui dont on parle dans l'Ancien Testament, que eux connaissent bien sûr par cœur, qui a été annoncé par les prophètes et qui donc malheureusement a été crucifié par les juifs. Et donc dans ces circonstances-là, ces juifs qui écoutent ce message sont complètement atterrés. Et donc, en verset 37-38, il est dit la chose suivante. « Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction. » Alors, compunction, ça veut dire douleur, regret d'avoir offensé Dieu. Donc, c'est un sentiment vraiment très, très fort. « Ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous. » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, ça c'est dans le verset 41, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Donc on voit bien outre le fait de croire, il y a aussi une prise de conscience qui amène la personne à se repentir et à accepter de bon cœur la parole, c'est-à-dire donc de croire au message complet. Et donc quand on fait une évangélisation, justement, on est un peu le porte-parole du Christ qui dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc quand on a l'occasion de porter des messages ou d'apostropher les gens dans la rue pour leur partager l'évangile, on est un peu ce Jésus-Christ qui frappe à la porte de leur cœur pour justement entrer chez eux. Alors pas nous bien sûr, mais par le biais de notre action et par le biais de la parole qui est adressée à la personne, de pouvoir permettre à cette personne de laisser entrer chez elle, dans son cœur, Jésus-Christ, pour pouvoir justement avoir cette intimité, parce que ici le souper représente quelque chose de très intime et un tête-à-tête, bien sûr, avec le Seigneur. Et on voit bien que le christianisme, c'est ça, en fin de compte, permettre que des personnes aient une relation personnelle avec le Seigneur pour pouvoir justement changer de vie, mener sur terre une vie chrétienne et pouvoir surtout croître spirituellement afin d'arriver, on va dire, à la stature spirituelle que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous. Et donc tout ça, c'est l'objet, entre autres, de l'évangélisation, mais ce n'est pas que le salut, quoi. Le salut, c'est, on va dire, le cadeau d'entrée dans le royaume des cieux. À partir du moment où je crois en Jésus-Christ, je suis convaincu que c'est le Fils de Dieu, par la foi, eh bien, un cadeau il m'est offert par grâce, celui d'être sauvé. Mais en fait, c'est le ticket d'entrée. Enfin, la foi, le ticket d'entrée, je reçois un cadeau, le salut, et à partir de là, comme je suis convaincu par la parole que je mène une vie déplorable vis-à-vis de ce que souhaite le Seigneur, peu à peu, par la prière, par l'enseignement, la lecture de la parole, je commence à me purifier, à me laver, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, pour avoir un profil, une personnalité qui soit en accord avec la volonté du Seigneur. Et donc forcément, je suis appelé à être incorporé dans une église locale pour faire partie de l'église universelle du Seigneur. Mais pour cela, effectivement, il faut que les gens puissent prendre conscience qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin du Seigneur. Parce que celui qui n'a pas conscience qu'il est pécheur, bah, il n'a aucune raison d'aller vers le Seigneur. Et puis après, s'il ne croit pas au Seigneur, bah, il ne croit pas non plus à l'enfer ou au paradis. Pour lui, ce sont des notions qui sont vagues, qui font partie, on va dire, peut-être de la mythologie. Et à ce propos, justement, les pharisiens reprochaient à Jésus-Christ le fait que souvent de fois, il passait son temps avec des gens de mauvaise vie, vis-à-vis d'eux qui, eux, se considéraient comme la crème de la société juive, puisqu'ils étaient très religieux. Et donc, dans Matthieu 9, chapitre 9, versets 10 et 13, Jésus-Christ, justement, leur dit, à ces fameux pharisiens, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui se portent mal. » Mais allez et apprenez ce que signifie « je veux de la miséricorde » et non pas le sacrifice. Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Voilà. Donc une fois rentré en relation personnelle avec Jésus-Christ, on est amené à grandir au travers de notre vie terrestre, de par ce que nous pouvons vivre dans nos vies personnelles, laborales, familiales, avec la parole du Seigneur comme soutien. Et donc, nous faisons partie de sa famille et nous avons une communion, on va dire, quotidienne avec le Seigneur. Et on voit cette proximité que le Seigneur souhaite avec nous, qui est encore montrée dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul les ravira de ma main. » Donc nous sommes en sécurité, à partir du moment où nous avons cette intimité, que nous sommes repentis, convertis au Seigneur, que nous menons notre chemin de croissance sur terre en son compagnie, on peut être soumis à des tentations, on peut être soumis à beaucoup de choses, mais nous sommes dans la main du Seigneur et personne ne peut nous ravir de sa main. Et ça, c'est une affirmation sur laquelle nous ne pouvons pas douter et qui est rassurante. toujours se remémorer que malgré les difficultés, peut-être même les persécutions, s'ils sont amenés à vivre des persécutions, ou malgré peut-être les moqueries des collègues de travail qui savent que vous êtes chrétien, que vous avez témoigné, eh bien peu importe, nous sommes dans la main du Seigneur, et eux pour l'instant sont dans la main du diable. Bien sûr, notre souhait c'est qu'ils en sortent pour nous rejoindre. Mais voilà, c'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas perdus, bien au contraire. Et donc, toute cette intimité quotidienne que nous pouvons vivre avec le Seigneur, ça demande de notre part un investissement quotidien, comme on le fait avec des amis, avec son épouse, avec ses enfants. C'est important de persévérer en cela. Et on voit se dessiner justement dans Jean chapitre 15 le pourquoi de cette intimité finalement. À quoi cela nous mène d'avoir une intimité avec le Seigneur ? Donc je vais lire quelques versets, vous n'êtes pas forcé de lire dans votre Bible, je vais vous donner la référence, c'est un petit peu long, mais c'est un passage que vous connaissez certainement. Jean chapitre 15, versets 8 à 14. « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Alors on voit notamment dans Éphésiens, quels sont les fruits de l'Esprit, hein. Notamment l'un des plus importants, c'est l'amour. Il y en a d'autres bien sûr. « Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit accomplie, c'est-à-dire aboutie, totale, complète. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Donc on voit que, outre l'intimité et le fait de vivre une vie chrétienne et spirituelle avec le Seigneur, nous amène peu à peu à nous purifier pour acquérir les fruits d'esprit qu'attend de nous le Seigneur, et notamment l'un des plus grands qui est celui d'avoir l'amour fraternel, non seulement pour ses frères et sœurs, mais également pour les gens du dehors. Et il conclut ceci, « Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Et donc, on voit bien que le but de la vie chrétienne, c'est d'atteindre la perfection dans l'amour, mais tel que Jésus-Christ et le Seigneur le conçoivent. Ce n'est pas un amour bête, béat, non, c'est un amour altruiste, destiné à exercer la bonté auprès de nos frères et sœurs, bien sûr, mais également auprès des personnes dans le monde, par notamment la prédication de l'Évangile. Et... Donc cet amour nous permet justement de raffermir les liens entre nous pour que cette église locale, mais l'église universelle, soit très très soudée, très très forte, en attendant bien sûr le glorieux retour du Seigneur. Et je conclurai le chapitre d'aujourd'hui par le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. C'est Jésus-Christ qui parle à son église. Et il dit la chose suivante à son Église, donc l'Église universelle, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. » Ben nous, notre tatouage, notre sceau, c'est le Seigneur. C'est l'amour que nous avons pour lui et qu'il lui a pour nous. « Car l'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme les enfers. Les flammes de l'amour sont des embrasements de feu et une flamme de l'éternel. » Voilà, mon souhait à moi, en tout cas, c'est d'avoir cet amour si ardent vis-à-vis du Seigneur pour être le plus obéissant possible et ainsi mener une vie de communion parfaite avec lui. Que Dieu vous garde et vous bénisse.